d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. Aujourd'hui, nouveau volet de l'émission Mode d'emploi animé par l'équipe de la 4e dimension, comme tous les 4e vendredis du mois. Nous sommes le 26 octobre 2018, au micro on retrouve Damien et Corentin, Claude aux manettes.
Bonsoir Corentin. Alors l'émission de ce soir est consacrée à la pauvreté et plus particulièrement à la pauvreté en France, donc un sujet sensible et complexe. Alors je vais commencer par une citation de notre cher président de la République Emmanuel Macron qui disait le 13 septembre 2018 lors de l'annonce de son plan national de lutte contre la pauvreté. Selon l'endroit où vous êtes né, la famille dans laquelle vous avez grandi, l'école que vous avez fréquentée, votre sort est le plus souvent scellé. En 20 ans, le taux de pauvreté est reparti à la hausse. On compte 9 millions de personnes pauvres en France, dont près de 3 millions sont dans une situation de privation matérielle grave. Toujours selon l'INSEE, un chiffre assez alarmant, on note qu'un tiers finalement des personnes pauvres en France sont des enfants ou adolescents. On estime qu'à 4 ans, l'écart de pratique familiale du langage est d'environ de 1000 heures selon les origines sociales et qu'à l'entrée du CP, à 6 ans, il existe une différence de 1000 mots maîtrisés à l'avantage des enfants issus de milieux favorisés.
Et donc, ce soir, nous nous appliquerons à mieux comprendre ce qu'est la pauvreté, en faire un état des lieux, qu'est-ce que veut dire être pauvre, qui sont les pauvres, quelles sont les conséquences individuelles et collectives, comment la pauvreté évolue-t-elle, quelles sont les politiques publiques menées, quels sont leurs résultats.
Alors, pour discuter de ces différents sujets, nous recevons aujourd'hui trois invités. Donc, Vanessa Stettinger par téléphone, bonsoir.
Bonsoir. Vous m'entendez ?
On vous entend, vous nous entendez ?
Oui, très bien.
Alors, je fais une rapide présentation, j'espère ne pas me tromper, on vous laissera vous présenter tout à l'heure. Donc, vous êtes sociologue de la pauvreté, maître de conférence à l'Université de Lille, et vous intéressez particulièrement aujourd'hui à la pauvreté des enfants et à leurs relations familiales.
Oui.
Nous avons également la chance de recevoir Jérôme Voiturier. Bonsoir.
Bonsoir.
Donc, vous êtes délégué général de l'UNIOPS, l'UNIOPS qui est une association de loi 1901 créée en 1947. Là aussi, vous pourrez me contredire. C'est bon pour l'instant. Donc, vous avez pour vocation d'unir et de défendre finalement et de valoriser les acteurs privés non lucratifs de solidarité. Et donc, vous êtes un peu le porte-parole des associations sur tous ces sujets exclusion et pauvreté. Et notre troisième invité, donc Jean-François Lahaye. Bonsoir.
Bonsoir.
Donc vous êtes également sociologue français, professeur à l'université de Paris 8. Vos recherches portent plus particulièrement sur les notions, alors vous nous expliquerez, médico-juridiques, la déviance, la pénalité, le punitif et les effets sur le récit de soi. Vous êtes notamment l'auteur de 12 ouvrages, donc Deux générations dans la débine, qui s'intéresse finalement à une enquête autour de la pauvreté ouvrière sur une période de 30 ans. Donc ouvrage qui a été publié aux éditions Bayard en 2011, si je ne me trompe pas. Et votre dernier livre, Une fille en correction, aux éditions CNRS, sorti en 2018, où vous dressez finalement le portrait d'une France à travers une correspondance entre une fille mère de 20 ans et son assistante sociale dans les années 50.
C'est
bien ça.
C'est
okay.
Ça.
Merci à tous les trois d'avoir accepté de participer à cette émission. Donc je le rappelle en introduction que vous pourrez retrouver cette émission comme toutes les précédentes sur le site de l'émission Mode d'emploi et qu'elle sera également rediffusée mercredi matin prochain à 7h sur Radio Fréquence Paris Pluriel.
En introduction, on aime bien donner la parole à nos invités pour se présenter rapidement. L'émission va passer vite, mais on attend de savoir un peu plus qui vous êtes, monsieur Lahaye.
Je suis d'abord enseignant et secondairement et peut-être premièrement avant tout ethnographe, ethnologue, enquêteur, observateur, donc depuis 30 ans, je vais de guichet en guichet pour observer qui au tribunal, qui aux urgences, à l'hôpital, qui à la caisse d'allocation familiale, à la poste, vient chercher ses sous, le cadre du mois, et je mène des observations essentiellement dans les guichets pour voir un peu c'est quoi cette expérience de l'attente. De l'attente, on passe son temps à attendre, et comment on attend, et comment on patiente. Donc, j'ai pas le sentiment de travailler sur la pauvreté, mais j'essaie d'attraper ce réel un peu sur, un peu autrement.
En tout cas, vous aurez des retours d'expérience à nous présenter tout au long de l'émission.
J'essaierai.
Jérôme Voiturier, allez-y.
Moi, j'ai une formation en sciences politiques. J'ai exercé plusieurs. Ça fait 20-25 ans que je travaille dans le domaine sanitaire, médico-social et social. À la fois de côté des pouvoirs publics à une époque, à la fois du côté parlementaire et puis associatif. Et ça fait un an et demi que j'ai rejoint l'UNIOPS.
Ok. Et donc sans oublier Vanessa Stettinger au téléphone, donc si vous avez aussi une ou deux minutes pour vous présenter.
Oui, donc je suis enseignante et chercheure aussi à l'Université de Lille, comme Jean-François Laïc, et j'ai salué.
Bonjour.
Donc mes recherches, j'ai d'abord travaillé sur les personnes en grande précarité, mendiants et vendeurs de journaux de rue dans le métro. Et c'est à partir de ce premier travail que je me suis intéressée à la question des familles pauvres et de la construction des liens entre parents et enfants dans un contexte de pauvreté. Où la pauvreté, voilà, à partir aussi, comme Jean-François, d'une démarche ethnographique, donc un travail à long terme de plusieurs années au sein des familles, où l'objectif, c'était, voilà, décerner les échanges, décerner les vécus et ces vécus de la pauvreté qu'on vit au quotidien. Et c'est pas un vécu anodin et qui transforme d'une certaine façon, qui forge d'une certaine façon les relations familiales.
Et nous y reviendrons dans la suite de l'émission. Pour rentrer directement dans le sujet, on commence directement à parler de pauvreté sans bien avoir une maîtrise complète de ce mot. Alors, je pense que c'est un mot tentaculaire qui prend plein d'aspects différents. Je vais commencer peut-être par vous, Vanessa. Quelle est votre définition de la pauvreté?
La question, elle n'est pas simple. Puisqu'il n'y a pas je ne pourrais pas donner une définition. Donc, il y a plusieurs définitions, et puis surtout, le regard que je porte, c'est un regard multidimensionnel, on va dire, de la pauvreté. Une pauvreté qui n'est pas uniquement monétaire, et je pense qu'il faut faire attention à cela, mais qui est aussi, qui peut être culturelle, qui peut être en lien avec l'accès à la santé, accès à divers et différents droits. C'est aussi ce qu'on peut parler, c'est de l'avoir peu, d'avoir peu, du manque. Je pense que voilà, les définitions, elles sont diverses, mais il ne faut pas oublier, ce n'est pas qu'une, pour moi, une définition monétaire. Donc c'est bien plus large que cela.
Jean-François, vous partagez cette définition en tant que sociologue?
Oui. Quand on regarde le regard du prince, le prince nous parle toujours en termes de mesures économiques, d'intervention économique, de seuil. C'est important, certes, mais il y a une dimension historique, il y a une dimension de la longue durée, des pratiques, des habitudes, des expériences. Et donc, il faut tenir compte d'une définition plus large du territoire, par exemple, comment on s'exerce, comment on circule sur un territoire. Ça peut être aussi une autre manière de définir l'enclave, l'enclavement. Moi, je travaille sur, entre autres, en Seine-Saint-Denis. Il y a énormément de gens qui ne connaissent que 2-3 lieux dans le département et qui n'ont jamais circulé ailleurs. Donc, on peut avoir de la monnaie en poche et ne pas accéder à la connaissance, à la formation, évidemment à des droits, mais la plus grosse fracture que j'observe depuis 10-15 ans, c'est ne pas accéder à Internet. ne pas. Et je trouve ça énorme.
La fracture numérique.
Oui, c'est ce mot qui est un peu. Oui, mais la réalité est très violente. Vous allez sur les Champs-Élysées, vous attrapez là aussi tout le long des Champs-Élysées. On a mis là aussi sur. Mais vous allez dans une cité de 10 000 habitants à Stein, il n'y a rien. Il y a très peu de gens qui ont Internet. Il y a très peu de gens qui ont un ordinateur. Donc il y a très peu de gens qui accèdent à des droits. Si vous n'accédez pas à Internet aujourd'hui, vous n'accédez pas à des droits, c'est pas vrai. Sauf à faire des journées entières de file d'attente dans les guichets. C'est pourquoi le guichet aujourd'hui retrouve une actualité. C'est vraiment les files d'attente de nouveaux pauvres, vieux pauvres, jeunes pauvres, qui font le guichet parce qu'ils n'accèdent pas à Internet.
Et du coup, il y a quand même un calcul, on nous annonce des chiffres sur des pauvres. Peut-être je vais laisser la parole pour expliquer un peu ce mode, ce seuil de pauvreté.
Juste pour rebondir ce que vient d'être dit, moi j'ai longtemps vécu au Pré Saint-Gervais, quand même pas très loin de Paris, qui est même limitrophe de Paris. Et j'ai souvenir de copains d'enfance qui avaient l'impression de passer une frontière lorsqu'ils allaient à Paris. Mmh. C'était l'autre monde, quoi. Ils n'y allaient pas. Mais revenons à la question du calcul de la pauvreté. Il y a un taux qui est admis, qui sert de référence, c'est le taux de pauvreté à 60% du revenu médian. En d'autres termes, c'est ceux qui sont. On regarde le revenu et puis on regarde qui est au-dessus de la médiane et en dessous, à 60% du revenu médian. On a 8,8 millions de personnes en 2016 qui sont en dessous de ce revenu médian, 60%, ce qui représente 14,8% de la population. Et élément important, depuis la crise de 2008, on a plus 800 000 personnes sous ce seuil. Lorsqu'on va un peu plus bas encore, ce seuil il est à 1015 euros. Lorsqu'on va un peu plus bas, c'est-à-dire un seuil de taux de pauvreté à 50%, on a encore près de, à 855 euros. On a encore près de 8% de la population. Et ce qui est encore plus important, c'est qu'il y a 57% de cette population, en dessous du seuil de pauvreté, de 60% de pauvreté, est en dessous du seuil de 50%. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la grande précarité. Ça, c'est la définition qui est admise, la définition qui est utilisée pour calculer le seuil de pauvreté. D'autres définitions ont essayé d'être construites, en particulier la définition de la pauvreté en conditions de vie. C'est-à-dire différents critères qui mettent en à la fois le logement, la faiblesse des revenus, la restriction à la consommation et les retards de paiement. Là, on a également des chiffres qui sont édifiants. Les deux définitions ne se redécoupent pas puisqu'on a près de 20% de population qui est soit dans l'un, soit dans l'autre. Ce qui veut dire que 80% de la population est dans les deux. Voilà, donc on a une définition qui est encore plus intéressante, ce qu'on appelle la taux de pauvreté monétaire persistante, c'est-à-dire lorsque vous êtes pendant 3 ans sous le seuil de pauvreté. Et là, on a un chiffre qui est aussi intéressant de 6,7% de la population en augmentation de 1,6 points depuis 2009.
Non, c'est ça qui est assez alarmant. En fait, on est quand même dans la 5e ou 6e puissance économique du monde et que depuis 20 ans, ce taux est reparti à la hausse.
Il est reparti à la hausse, oui, parce que en plus vous avez, lorsque vous calculez le seuil de pauvreté en fonction d'un point de vue monétaire, vous avez aussi tout ce qui est lorsque vous avez une augmentation des plus hauts salaires du plus haut décile, ça joue bien entendu sur le calcul du revenu médian. Donc vous avez mécaniquement une population qui devient pauvre du fait de l'augmentation des salaires des plus riches, ce qui est une des raisons. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est là peut-être une réponse à une expression malheureuse de notre président de la République sur « on dépense un pognon de dingue », c'est que l'adresse, c'est un organisme officiel du ministère qui fait des calculs, des études, direction des recherches et études, a sorti une étude il y a 5-6 mois en disant « si on n'avait pas ces prestations sociales, le seuil de pauvreté, enfin le nombre de pauvres ne serait pas de 14,8%, mais de 24 ou 25% de la population ». Donc on a un intérêt considérable à maintenir cette aide sociale, cette prestation sociale, cet accompagnement des personnes pour éviter, et quand on fait une comparaison avec les autres pays européens, on se rend compte qu'on est, alors j'ai un peu honte de dire ça, mais on est quand même dans une situation où la pauvreté par rapport à d'autres pays est quand même à moins augmenté depuis la crise.
Jean-François, vous partagez ce point de vue, et on se posait aussi la question on commence à bien comprendre ce qu'est un pauvre, quelle est la définition, de profil, de typologie, de lieux qui pourraient expliquer ou en tout cas qui sont propices à la pauvreté.
Bon, c'est si vous voyagez, si C'est ce que je fais. Je vais souvent dans des villes de 30 000, 50 000 habitants. J'y reste une journée, deux journées, trois journées. Vous faites... c'est absolument étonnant de voir les centres-villes, par exemple, se décomposer, de découvrir des rues entières complètement abandonnées, insalubres, puisqu'on n'avait pas vu depuis 45, 50, 55. Il faut avoir une vision dynamique des situations extrêmes, des situations de pauvreté. Il ne faut pas avoir une vision linéaire à 45, 60, 68. On est en 2018. Il y a des grands mouvements il y a des mouvements souterrains de retour en arrière, d'évolution sur un domaine, de baisse de l'autre. Prenons l'alimentation. Ce que mangeaient les gens dans les années 50, 60, les gens mangeaient beaucoup plus mal par rapport à aujourd'hui. Néanmoins, il y a encore énormément de gens qui ne font qu'un repas par jour, dont les étudiants de Paris 8. Ils ne sont pas pauvres. On s'en fout, maman. À un moment, le mot, il faut laisser tomber. Mais il y a beaucoup de gens qui ne font qu'un repas par jour. Il est sans doute mieux qu'en 1950. Mais vous voyez, donc on peut gagner dans un domaine en perdre l'autre. Les jeunes précaires accèdent quand même plus facilement à Internet que leurs parents, par exemple. Enfin, donc, il y a des contrastes énormes entre... il faut avoir une vision contrastée des situations, parce qu'autrement, on écrase la réalité complètement.
Alors, Vanessa, on ne vous oublie pas, hein, mais peut-être justement sur ces sujets, parce que vous intéressez plus particulièrement à la pauvreté de l'enfance et de l'adolescence. Donc, on a posé en gros qui sont les pauvres, où sont les pauvres. Alors, c'est caricatural comme question, j'en conviens, mais peut-être sur ces sujets, enfin quelques éléments de contexte sur la pauvreté de l'enfance.
Oui, juste avant, dire un mot sur la question des statistiques et des chiffres, qu'il faut pas oublier que ces chiffres-là qui sont déjà importants, il y a quand même une partie des populations qui sont difficiles à cerner et qui ne rentrent pas dans les statistiques, comme certaines institutions, etc. Donc les taux, ils sont quand même encore plus importants. Mais en même temps, il ne faut pas avoir un regard misérabiliste. La France, quand même, comme ça vient d'être dit, il faut le rappeler, est quand même un des pays dans le monde où les taux de pauvreté est le plus faible. Et aussi la pauvreté moins durable. Donc il ne faut pas l'oublier. Ce qui n'empêche pas, et puis ce que vient de dire Jean-François, c'est intéressant aussi dans le sens où ce regard historique nous permet de voir les visages de la pauvreté et le changement de population et la prise en charge aussi de ces personnes. Où il y a bien quelques années, hein, la personne âgée, etc., c'était une cible importante, qui était dans des situations de grande pauvreté. Et aujourd'hui, on a changé quand même de profil, où c'est les jeunes, des jeunes peu diplômés, etc., qui se retrouvent dans des situations de grande vulnérabilité. Donc, pour revenir sur les questions plus précisément des enfants, donc, il faut pas oublier que l'enfant pauvre est l'enfant de parents pauvres. Hein. C'est pas l'enfant qui est pauvre en soi, c'est la famille. Donc, il y a la question de la pauvreté des parents. Je pense qu'on reviendra, et puis on reviendra plus précisément autour du plan pauvreté, etc., ce qui apporterait aux familles. Mais j'attire l'attention aussi au peu d'intérêt qu'on a en France sur la pauvreté des enfants, peu d'intérêt aussi en termes de recherche, recherche sur ces situations, où en France, par exemple, on n'a pas de recherche longitudinale concernant les effets de la pauvreté sur l'enfant. Tous les données, tous les travaux qu'on cite ou qu'on utilise, ce sont des travaux anglo-saxons, etc., et pas français, ce que c'est un peu dommage.
Jérôme, vous voulez peut-être intervenir rapidement, la pause musicale arrive.
D'accord, je ne vais pas couper la musique. Très rapidement, mais on a quand même une diversification de la pauvreté. On a une image dans les années 50, la bonne cloche, pour faire court. On a quand même maintenant, là c'est peut-être un petit point de pas de désaccord, mais en tout cas, on a une vraie pauvreté aussi des personnes âgées, rurales, avec un vrai isolement social. Mais aussi, on a un nouveau phénomène qu'on n'avait pas depuis un certain nombre d'années, c'est les travailleurs pauvres. On partait du principe qu'avoir un travail était un moyen d'éviter la pauvreté. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de travailleurs qui sont dans des situations de précarité, de pauvreté, et ça c'est aussi, on voit une vraie diversification des poches de pauvreté suivant la population.
Tout à fait. Ouais.
Très bien. Ben, du coup, je pense qu'on a notre première vision sur la pauvreté à la suite de cette première partie. Et je vous propose une première pause musicale avec Bidonville de Nougaro. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, l'émission Mode d'emploi, animée par la quatrième dimension, est consacrée au plan pauvreté.
C'est un hommage à la Fondation Copernic.
C'est ça.
Du coup, alors avant de s'attaquer au gros morceau qui est le plan pauvreté, moi j'avais peut-être juste une petite parenthèse autour de votre ouvrage, Jean-François Lahaye, qui s'appelle Deux générations dans la débine, finalement qui est une enquête. Vous avez dit, vous êtes enquêteur dans la pauvreté ouvrière, qui s'attache à regarder un peu la transformation de la pauvreté sur deux générations. Et à la lecture du résumé de cet ouvrage, en fait, la question qui se pose, c'est finalement qu'est-ce qui change autour de la pauvreté sur ces deux générations.
Avec Numa Murard, nous sommes retournés sur des études d'enquête réalisées en 75-80, disons qui sortaient des bidonvilles autour de Rouen, Elbeuf, et qui étaient relogés dans les cités de transit. Et donc le livre « L'argent des pauvres » raconte des histoires sur ce passage bidonville, cité de transit, comment on survit, comment on bricole, comment on trouve de l'argent, comment on travaille parfois. Donc ce sont plus des récits. Et on y est retourné 30 ans après, retrouver quelques familles, les enfants qui avaient 10 ans, qui ont 40 ans. Et puis on a essayé de s'interroger sur justement qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui...
Et qu'est-ce qui a bougé, justement?
Si on veut réfléchir à ces processus, faudrait faire des enquêtes toujours 30 ans, 40 ans après. Enfin, on est sur de la longue durée.
Sur du dynamique, vous citiez tout à l'heure.
Comment?
Sur de la dynamique, finalement.
Oui, et puis c'est pas une politique qui réduit tout. C'est pas une deuxième politique qui réduit, mais une troisième. C'est sur 40 ans, 50 ans, 70 ans que ça se transforme. Mais ça se fait pas comme ça en 3 ans, 5 ans. De façon caricaturale, les gens étaient massivement à la soupe populaire dans les années 75-80. Et l'arrivée de RMI a été une vraie transformation. Après, quand on analyse ça aujourd'hui, on voit bien que ça a évité d'aller à la soupe populaire. Ensuite, les gens mangeaient mieux. Les gens mangeaient plus souvent. Parfois, faisaient deux repas par jour. Et les enfants, qui ont 40 ans maintenant, eux accèdent un peu plus, justement, à Internet. Et donc, Internet est vraiment la porte pour accéder à ses droits. Je crois que si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien. Et donc, les guichets se sont énormément réduits en 75-80, et peut-être qu'aujourd'hui, les files d'attente dans les guichets reprennent à cause de cette fracture numérique que j'évoquais tout à l'heure.
Okay. Alors peut-être, Jérôme, sur parce qu'on a parlé du RMI et puis finalement de cette transformation sur 40 ans, est-ce qu'un petit rappel historique des différentes politiques, j'imagine qu'il y a des grandes dates avant cette dernière stratégie nationale?
Juste pour rebondir avant sur ce qui vient d'être dit, vous citiez tout à l'heure le président de la République le 13 septembre dernier, lui il disait qu'il fallait 6 générations pour sortir de la pauvreté. Donc on voit qu'on est sur une dynamique qui est quand même assez longue, ce qui d'ailleurs note sur l'efficacité des politiques immédiates, il y a un questionnement. Donc il faut vraiment qu'on construise sur des longs termes. Très rapidement sur les différentes stratégies, on a d'abord l'appel du père Brzezinski qui met en lumière la lutte contre la pauvreté, la situation, on vient d'entendre bidonville, la situation dans des bidonvilles proches proche de Paris. On a par ailleurs ensuite une grande loi de lutte contre l'exclusion en 1998 qui crée la CMU. Et puis on a, alors je fais vraiment très rapide, on a un plan Borloo en 2005, on a différentes choses. Et puis on a aussi une stratégie, un plan, pardon, les mots ont leur importance, un plan de lutte contre la pauvreté 2012-2017 fait par le quinquennat précédent, pendant le quinquennat précédent. Voilà, qui mêle à la fois activation, à la fois augmentation de l'ACS. Alors, je sais pas s'il faut que les acronymes, faut peut-être l'aide à la complémentaire santé, une CMU qui est renforcée, la garantie jeune qui est une des propositions. Et puis, on arrive maintenant à cette stratégie dont on parlera peut-être tout à l'heure. Voilà. Petit à petit, on a une prise de conscience, même si on a toujours du mal à nommer, on en parlait tout à l'heure, on a eu des plans exclusion, des plans pauvreté, voilà, différents noms qui font qu'on a toujours du mal à voir le concept derrière.
Et on entend plus 600 000 pauvres sur les 10 dernières années. C'est la conséquence de ces politiques, c'est la conséquence de l'absence, du manque d'ambition, ou c'est des phénomènes externes qui ont mené à ça?
C'est un phénomène qui est à la fois externe et interne. Comme je vous le disais tout à l'heure, si on n'avait pas le filet de sécurité de la protection sociale, ce ne serait pas 600 000, ce serait multiplié par X. Donc dans un premier temps. Et puis c'est aussi, il y a un institut qui s'appelle l'ONPES, qui est l'Observatoire National de la Pauvreté, qui a très bien expliqué dans un de ses rapports, dire voilà, à partir du moment où la logique économique sera toujours la réduction du déficit, et vous savez, la fameuse arrivée à 3% de déficit, il sera très difficile de s'inscrire dans une priorisation de lutte contre la pauvreté. Donc c'est aussi l'objet, la conséquence de politiques économiques qui sont fixées sur la rentabilité, sur un retour, une diminution de la réduction de la dette publique. Mais voilà, il faut après prioriser et faire de cette lutte contre la pauvreté une cause nationale.
Alors, du coup, je profite de ce que vous avez parlé de l'importance de la protection sociale. C'est peut-être l'occasion d'évoquer ce fameux plan pauvreté, puisqu'il y a notamment cette stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, tout à fait. Alors, c'est peut-être une simplification journalistique qu'on a entendu pendant 2-3 mois, mais parce que finalement, il y a différents axes, dont un sur la simplification du système social. Avec le revenu universel d'activité notamment. Peut-être juste, moi j'avais une question donc plutôt à destination de vous, Jérôme, sur ce que vous, en tant qu'acteur associatif et militant sur le sujet, comment vous avez vécu en fait cette construction de cette stratégie, et puis finalement, est-ce que c'est tout bon, ou est-ce que vous avez été entendu, enfin voilà, un peu le regard d'un acteur militant sur le sujet.
Plusieurs éléments. Je vous reprenais mais gentiment sur plan et stratégie, parce que on nous a expliqué pendant très longtemps qu'un plan c'est figé, ça ne bouge pas, une stratégie c'est dynamique, voilà. Donc le président de la République a décidé d'une stratégie. Il y a d'autres stratégies de transformation du système de santé. On a en ce moment une multiplication des stratégies. Sur la concertation, enfin sur l'action de la stratégie de pauvreté, on a été très échaudé au départ. On a eu quand même l'arrivée du gouvernement avec baisse des APL, fin des contrats aidés. Enfin voilà, on a eu un moment où on a été convié à l'Élysée. On lui a expliqué que quand même il y avait, il nous expliquait en même temps, mais il fallait qu'il y ait deux jambes, une jambe droite et une jambe gauche, et qu'il y avait quand même une population qui était en souffrance. Donc petit à petit, on a eu des concertations, et on a eu la chance, et je le dis vraiment, j'insiste là-dessus, on a eu la chance d'avoir un délégué interministériel qui s'est vraiment battu énormément pour cette stratégie. On a eu 6 groupes de travail dans lesquels on a été concertés, écoutés. Les conclusions ne sont pas les nôtres, mais en tout cas, on retrouve une bonne partie de ce qu'on a porté. Et puisque vous parlez sur le RUA, enfin le revenu universel d'activité, c'est malheureusement le seul point sur lequel on n'a pas été concerté et sur lequel, à l'heure actuelle, on a beaucoup d'interrogations.
Effectivement, pour rappeler à nos auditeurs, il y a 4 axes du plan pauvreté. Le premier,
5.
Vous nous avez éclairé dessus, je vais en citer 4.
C'est une stratégie. Hein.
C'est une stratégie. C'était pour voir si vous suiviez. L'action sur la petite enfance. Deuxième axe, accompagner les jeunes et les bénéficiaires du RSA vers l'emploi. Troisième axe, la simplification de notre système social. Après, sur le logement, résorber les bidonvilles, et le cinquième serait...
Non, il y a 5 points. L'égalité des chances dès les premiers pas, la garantie des droits fondamentaux de l'enfant, le parcours de formation garantie pour tous les jeunes, les droits sociaux plus accessibles. Donc ça, les droits sociaux plus accessibles, c'est la simplification administrative. Et puis un investissement sur l'accompagnement de tous vers l'emploi. Donc il y a aussi un autre emploi avec la création d'une garantie activité, 100 000 salariés en plus dans l'IAE. Voilà, on a plusieurs axes sur lesquels on s'y retrouve. Mais je pourrais définir plus si vous le souhaitez.
Et du coup, à la fin, c'est une bonne stratégie ou une mauvaise stratégie?
Alors, il y a plusieurs éléments. Il y a des éléments positifs et des éléments négatifs. Le positif, d'abord, c'est qu'on a déjà une vraie volonté. Lorsqu'il n'y a pas de volonté politique, on voit très bien que ça fonctionne pas. Sous le précédent quinquennat, on a eu deux époques, pour faire très clair. On a eu une époque où il y avait un vrai dynamisme sur le plan pauvreté. Pour faire simple, le premier ministre du gouvernement du quinquennat précédent. Et puis ensuite, on a senti, dans un deuxième temps, une plus difficile appropriation des questions de lutte contre la pauvreté. Donc, il faut vraiment cette volonté, cette inspiration, ce rôle moteur du pouvoir pour irriguer les territoires. On a d'autres idées qui nous semblent intéressantes. On a l'idée d'investissement. Toute la stratégie pauvreté pose sur l'investissement en disant, nous, on veut faire de la prévention dès le plus jeune âge pour éviter les situations de pauvreté. C'est une bonne notion, c'est une notion intéressante de prévention. C'est une notion, nous on l'a toujours dit, avec mon faible niveau d'économie, on m'a toujours expliqué que dans l'investissement, il fallait d'abord donner de l'argent avant d'avoir des retours. Ça, c'est peut-être une question qu'on a malheureusement pas été complètement entendue, on va dire. Un des aspects très intéressants de cette stratégie, c'est qu'il y a une déclinaison territoriale. À l'heure actuelle, ils sont en train de travailler et on y participe. À avoir un vrai schéma départemental, régional de stratégie de lutte contre la pauvreté. Et ça, c'est un élément important. Et puis peut-être, enfin, un dernier élément intéressant, c'est que la stratégie propose une plus grande participation des personnes en situation de pauvreté. Je m'explique. Et vous allez comprendre tout de suite la fameuse phrase de Mandela. Tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi. C'est-à-dire qu'on a besoin, on a un vrai besoin d'avoir les personnes en situation d'exclusion qui sont des acteurs de leur propre de cette stratégie et de leur propre vie. On doit passer d'un moment où on accompagne, on parle pour, à un moment où on donne les moyens aux personnes en situation d'exclusion d'être actrices de cette stratégie. Ça, c'est pour les points positifs. Les points négatifs, je vais faire très rapide. On a quand même des grands oubliés de la stratégie. On a toutes les personnes âgées on a quand même les trois premiers axes et voire le quatrième qui concerne les moins de 25 ans. On n'a pas d'axe sur les personnes en situation de pauvreté. Il se trouve que je me balade aussi en France et dans des départements ruraux, il y a des vraies situations de pauvreté de personnes âgées. Les migrants sont bien sûr oubliés. Et puis il y a aussi une logique qui nous dérange, nous chatouille, je ne sais pas comment très bien comprendre, c'est qu'on est sur une logique d'activation des droits. Je m'explique. On est sur l'idée que ce sont les personnes qui sont le plus proches du monde du travail qui vont être impactés par cette stratégie de lutte contre la pauvreté, et les personnes qui sont en grande situation de grande précarité sont les plus éloignées de cette stratégie. Juste un exemple pour vous allez comprendre rapidement. La prime d'activité est revalorisée à l'heure actuelle. Elle est désindexée de l'inflation. Elle est revalorisée pour les personnes qui touchent entre 0,5 et 1 SMIC. Ce qui veut dire que toutes les personnes qui sont en dessous de ce 0,5 SMIC ne sont pas revalorisées. Donc on essaye d'agglomérer les personnes les plus proches. Vous savez, comme un aimant, un aimant qui attire les pôles les plus proches. On essaie d'attirer les personnes qui sont les plus proches du monde du travail en oubliant, involontairement je le pense, en oubliant les personnes qui sont les plus éloignées et donc en situation de plus grande précarité.
Vanessa, vous qui avez travaillé sur l'action pour la petite enfance, est-ce que cette catégorie-là fait partie de la partie aimantée de ce schéma?
Oui, juste revenir un petit peu sur une idée un peu générale concernant ce plan. Pas oublier quand même que, à mon avis, c'est pas cette stratégie de lutte contre la pauvreté, elle est quand même dans une continuité d'une politique qui est en place depuis plus de 30 ans maintenant. Donc il faut pas oublier, avec toutes ces transformations structurelles actuelles encore aujourd'hui en termes de chômage de masse, etc., où la question de réduction budgétaire et cette question aussi de l'activation, ce qu'on appelle l'activation des dépenses passives, est très présente. Donc on rencontre tout ça de façon présente dans ce plan, ce qui n'est pas un changement. C'est quelque chose qu'on voit déjà et qui change le regard et change la façon de traiter la pauvreté de façon importante. Donc du coup, ce qu'on voit qui cette stratégie, ce plan, il est quand même basé sur l'emploi. Donc et puis ce qui on regrette un petit peu, moins sur l'amélioration de la protection sociale. Donc si vous voulez, si on revient un peu sur la question de la petite enfance, donc, ce qui est intéressant en termes de prévention, mais on sait très bien que c'est aussi une façon aussi de faciliter le travail des femmes, etc. On est toujours dans cette prévention et réparation. Mais si d'un côté on favorise le travail des femmes, etc., cette non-amélioration de la protection sociale ou de revalorisation du RSA ou maintenant du revenu universel d'activité, donc ça pose problème. Donc c'est très bien d'être au niveau de la prévention, de faire pour les enfants, etc., à part les petits déjeuners à l'école, qui ça, voilà, c'est peut-être une blague, parce que voilà, je pense qu'il y a vraiment, il n'y avait pas de place à cela, et je pense que ça n'aide pas, ça n'aide personne. La question plus tournée à l'aide quotidienne, la pauvreté, on l'a vu au quotidien. Il a le manque d'argent, le manque. Donc, quand on voit les RSA, le taux des RSA socle à 483, et puis le taux de pauvreté, par exemple, si vous, comme vous avez montré, on avait parlé du 60%, qui est à 1026, on voit l'écart. Donc, la difficulté de ces gens de vivre au quotidien est très importante. On peut mettre nos enfants dans des crèches, à l'école très tôt, etc., mais ils rentrent à la maison. Et quand ils rentrent à la maison, la pauvreté est là. Et donc, je pense que, voilà, dans cette stratégie de la pauvreté, il manque ça, il manque quand même cela.
Peut-être, Jean-François Lahaye, une réaction par rapport à ça, avec votre regard d'enquêteur sur plusieurs années?
Je voulais juste attirer l'attention sur la fin des bidonvilles des années 75-80. 80, il n'y a presque plus de bidonvilles. Et c'est maintenant, autour de Paris, vous avez 200 micro-bidonvilles. C'est juste une remarque pour dire, ne croyons pas que l'histoire, c'est un temps linéaire d'un progrès social qui monte. Il faut penser qu'il y a énormément de situations qu'on ne connaît pas, du genre... les copropriétés dégradées, on peut être travailleur pauvre, on peut être propriétaire pauvre, on peut être des nouveaux vieux pauvres, c'est évident que nous allons assister dans les 15 années à venir de nouveaux vieux pauvres, très sérieusement pauvres. Et donc, il y a plein de situations qui sont des points aveugles, il y a une méconnaissance de l'épaisseur, de l'infra-ordinaire et de l'infra-économie des gens.
Très bien. Avant d'entamer la dernière partie de cette émission, je vous propose une pause musicale avec Emmenez-moi de Aznavour.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre à l'eau au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil.
FM, donc un petit hommage à Charles Aznavour. Donc l'émission Mode d'emploi, quatrième dimension, est consacrée aujourd'hui au plan pauvreté. Alors on discutait notamment des actions liées à la petite enfance avant la pause musicale. Jérôme Voiturier, vous aviez une petite remarque ou anecdote?
Non, j'ai entendu que les petits déjeuners en établissement pouvaient apparaître comme anecdotiques. C'est vrai que si c'était uniquement la seule mesure, ça le serait. Il se trouve que que d'un point de vue, enfin là je parle cyniquement le citoyen et pas le directeur de l'UNIOPS, j'ai des enfants en âge scolaire dans une école publique dans le 20e arrondissement, et c'est vrai que je vois leurs camarades, ça peut être une mesure très intéressante parce qu'il y a beaucoup de camarades de mes enfants qui n'ont pas les moyens, différentes raisons de prendre un petit déjeuner. Et c'est vrai qu'en discutant avec les instituts, on peut se rendre compte qu'à 11h, il y a un gros coup de barre qui est un peu compliqué, quoi.
Ok. Bah,
mais c'est juste un mot.
Bien sûr.
C'est quand même ça qu'on observe. Je n'observe pas cela quand j'y vais dans les familles enquêter, faire de l'ethnographie pendant des années, etc. Donc, bien évidemment, certaines familles, on peut, bien sûr, ça peut arriver, mais c'est aussi, on dit qu'il ne faut pas les prendre en charge, et toutes les politiques, quand même, on voit qui visent ça, la peur des trappes à pauvreté, l'installation, etc. Donc, ces familles, elles savent faire le petit déjeuner, et puis, si elles n'ont pas parfois les moyens, ce qui quand même est rare parce qu'elles arrivent à s'alimenter. Après, toute la question, c'est le type d'alimentation et comment elles font. C'est une question de manque de moyens. Donc, au lieu de faire à la place d'eux, là, elles peuvent le faire. Et sans compter que, bon, les jours où l'école ne fera plus, comment on fera. Donc, je pense que il y a des choses, voilà, mais c'est anecdotique. Hein,
C'est pas tant que ça, c'est une bonne transition finalement, parce que justement, je profite que vous ayez la parole sur... voilà, on a identifié quelques trous dans la raquette pour cette stratégie. Peut-être que vous, Vanessa, vous aviez des pistes, ou en tout cas des travaux de recherche sur le sujet qui pourraient être portés au niveau national dans le cadre d'une stratégie. Enfin voilà, quelle piste pour améliorer un peu la situation ?
Après, bien évidemment, c'est large. Hein. Je pense qu'il faudrait, bon, c'est des choses il y a des pistes intéressantes. Hein. Je pense qu'il y a des choses à profiter, à prendre en compte, à améliorer. Il y a des inconnus aussi. Hein. Par exemple, j'ai travaillé avec l'URIOPS Hauts-de-France sur la question des jeunes en fin de parcours à la protection de l'enfance. Donc un sujet aussi important, mais auquel il faut aller au-delà aussi. Mais voilà, on n'a pas encore toutes les données. Donc ce sont des négociations avec le département, on se demande comment ça va se passer. Donc on aurait pu aller plus loin. Et là, la question aussi des jeunes, de façon générale, où il faudrait quand même les jeunes des 18-25 ans, qui sont quand même dans des situations... parfois de pauvreté, qui ont très peu ou presque rien, même si la question de la formation, elle est intéressante. Mais voilà, donc du coup, il y a des choses faites, mais on ne va pas jusqu'au bout. Oui. Et cette question que je pense qui est importante, hein, je reviens souvent, la pauvreté, elle se vit au quotidien. C'est tous les jours. Et là, il faut aussi penser à combler ce tous les jours et pas être uniquement, même si c'est pas uniquement, mais pas uniquement dans la prévention. Alors. Juste peut-être pour compléter aussi, parce qu'on a parlé la petite enfance, la formation des professionnels de la petite enfance, pour moi, il faut aussi aller plus loin dans la formation aussi des professionnels, des travailleurs sociaux, les sensibiliser sur la question de la pauvreté. Il faut voir que leur formation quand même est très basée sur une approche psychologique individuelle, donc ceux qui parfois posent problème, ou parfois la question de la pauvreté n'est pas abordée, n'est pas toujours prise en compte. Donc ça, c'est important aussi, et aussi mieux comprendre aussi pourquoi parfois ces familles et ces personnes sont éloignées des institutions. Donc, ou la question de imposition de normes, la question des jugements, ça fait qu'elle fuit parfois les institutions, les crèches, la PMI. Donc, du coup, voilà, c'est important aussi de parler de tout ça.
Jean-François, est-ce que c'est pas un peu le serpent qui se mord la queue, où il y a des politiques publiques qui fragilisent le travail, peut-être sur ces dernières décennies, qui causent des effets sur le travail, sur le chômage, et qui crée de la pauvreté? Est-ce que c'est une piste?
Les effets négatifs, on s'en aperçoit toujours 20 ans, 30 ans après. Non, mais c'est, faut pas croire qu'on accède à la réalité comme ça, quoi. Il faut pas croire que le politique voit la réalité et l'épaisseur de la réalité. Pour voir l'épaisseur de la réalité, il faut beaucoup de temps. Il faut beaucoup de, d'enquête. Il faut beaucoup de s'intéresser, comme je disais, à l'infra-économie. Si j'avais un tout petit programme de recherche à faire, ce serait enquêter sur les hébergés dans le logement social, c'est-à-dire les gens seuls qui, nuitamment, se font héberger dans des familles pendant 6 mois, 1 an, 1 an et demi. Ce serait, je disais tout à l'heure, les petites villes de 20 000, 30 000, 50 000 habitants, les centres-villes complètement paupérisés. Ce serait, je disais aussi, les copropriétés dégradées, c'est des propriétaires pauvres, mais qui sont presque pas vus. Les spécialistes le savent, mais on n'a toujours pas compris que ces propriétés dégradées, on va être obligé de les détruire dans 10 ans, dans 5 ans, et que les gens vont être à la rue. Et donc, il y a toute cette infra-économie. Tous les gens endettés, mais quelle que soit la forme de dette, même les petites dettes, enquêtés sur toutes les formes d'endettement qui amènent subjectivement à avoir un rapport à la société qui est très distant. Je me souviens de cette expression de cette femme de 40 ans. Je flotte, je surnage, je me sens comme une épluchure de pommes de terre sur l'eau. Je couche, je remonte, je reflotte, comme on peut voir des épluchures dans l'eau. L'expérience de la pauvreté, c'est une expérience en rapport avec le temps. Avec le temps qui ne vaut rien. Le temps est dévalorisé. Il n'y a plus rien à faire. Le temps est vide. Et il se remplit par les files d'attente dans les guichets. Donc, vous voyez, ce rapport au temps est très problématique et définit tout autant ce que c'est que cette distance à l'État, cette distance à la protection sociale, cette distance à l'intervention sociale.
C'est vrai qu'il est important de rappeler que, on a parlé beaucoup de chiffres, mais que la pauvreté, c'est une vie au quotidien, c'est du stress, c'est des contraintes sur la vie, un manque d'avenir, et qu'il y a toutes ces, au-delà des chiffres, il y a des vies humaines qui sont très compliquées derrière.
Et les gens, moins on a, plus on compte, et on recompte, les derniers euros. Le 2 du mois, le 3 du mois, on attend le 3, le 4 du mois, le 5 du mois. Et les gens vont à la poste trop tôt. Ils savent qu'ils viennent trop tôt. Mais ils veulent vérifier si vraiment l'agression va arriver. Parce qu'ils pensent qu'elle peut ne pas arriver. Et ça occupe leur esprit pendant 5-6 jours. Parce que depuis 8 jours, 7 jours, ils peuvent plus. Donc, ce temps, vous comprenez, ce temps ne vaut rien. C'est le temps de l'attente. Et c'est, si on ne comprend pas cette posture subjective eu égard à la société, à l'État, on comprend rien. Et donc le thème de l'activation que vous évoquez, c'est un thème un peu idéologique. Enfin, les gens peuvent pas être actifs, ils attendent. Ils peuvent pas être moteurs de leur vie parce qu'ils attendent. Enfin, ils sont dans une panne. C'est la panne. Et tant qu'on veut pas voir la panne, on pense que n'importe qui peut redevenir acteur de sa vie, mais moi aussi, je le souhaiterais, mais c'est une vision sympathique. Moi, je peux l'avoir par moment. Oui, mais si vous observez de près comment on tombe en panne et comment on attend, vous voyez que les gens sont bouffés. Le temps les bouffe. Le temps vaut rien et le temps les bouffe.
Jérôme Baturi, une réaction en très peu de temps.
Très peu de temps. Alors, pardon, on a dit qu'on avait cité trop de chiffres, mais je vais quand même en citer d'autres. Ce qu'il faut dans une logique globale de stratégie de lutte contre la pauvreté, c'est qu'on ait une dynamique politique qui soit d'un seul bloc, enfin en tout cas d'une seule direction. On a par ailleurs quand même des éléments qui sont, on va dire, presque contracycliques. Avoir une diminution de 5 euros des APL, ça rapporte 400 millions. Franchement, ça a un impact direct sur la possibilité pour les personnes qui touchent les APL, impact direct sur leurs conditions de vie. Avoir complètement baissé, amoindri les contrats aidés étaient aussi un des moyens pour des personnes éloignées du monde du travail de revenir dans le monde du travail pour différentes raisons. Lorsqu'on voit la politique qui est menée actuellement sur les HLM, sauf erreur de ma part, je crois que les HLM permettent à 12 millions de personnes d'avoir un logement. On assiste à une privatisation à l'heure actuelle du logement social. Donc elle est contradictoire par rapport à une stratégie de lutte contre la pauvreté. lorsque une autre mesure, on diminue le budget sur 5 ans, sur 4 ans, de 57 millions des CHRS, centres d'hébergement et de réinsertion sociale, dont 20 millions dès l'année 2018. Qu'est-ce que c'est les CHRS? C'est de permettre à des personnes qui sont en dehors du monde du travail, en dehors de l'habitat, de revenir et d'avoir un accompagnement social. La mesure, la conséquence directe de cette mesure, c'est que les 20 millions d'économies, où est-ce que les promoteurs, les responsables de CHRS vont faire? Ils vont retirer la mesure d'accompagnement. Et donc, toute la mesure de participation de la personne, de retour de l'activation des droits, elle va être complètement mise à l'écart. Oui, une mesure, cette mesure-là, directement les 20 millions, c'est 1400 places en moins. Direct. Donc, vous voyez, il faut qu'on ait une logique. La stratégie, le monde associatif, généralement, a plutôt salué la stratégie, avec quelques remarques par ailleurs, mais bon. Mais par contre, il faut qu'on ait une loi de financement de la sécurité sociale. Et je vous invite vraiment à regarder certains articles de la loi de financement de sécurité sociale qui sont très inquiétants. Sur le gel des prestations sociales, par exemple, il faut qu'on ait une vraie logique complète de dynamisation de cette stratégie.
Vous nous donnez un sujet d'émission.
On reviendra. Avec plaisir.
L'émission va bientôt toucher à sa fin. On tenait vraiment à vous remercier autour de la table.
C'est un plaisir.
Pour ce sujet qui est vraiment fondamental dans notre société, qui est la place des pauvres. L'émission donc touche à sa fin. Vous pourrez la réécouter sur le site de Mode d'emploi. Le prochain numéro de notre émission animée par la quatrième dimension sera dans un mois, le quatrième vendredi du mois, comme je le disais. Les plans se suivent, mais ne se ressemblent pas. Nous parlerons du plan vélo.
Stratégie nationale.
Merci à tous les trois. Merci à Vanessa d'avoir été là.
Salut Vanessa. Salut.
Au revoir.
Nous vous quittons avec Alpha Blondie.
À bientôt.
Au revoir. Salut.